chers confrères, chers pèlerins, venus de loin ou de près, nous sommes réunis face à la grotte de Lourdes, à la grotte de Massabielle, où la Sainte Vierge s'est plu à apparaître à Sainte Bernadette pour lui demander prière et pénitence pour les pécheurs, pour l'Église, pour demander que par ses prières et ses pénitences s'ouvrent tout grand les trésors du Sacré-Cœur de Jésus, la miséricorde du Cœur Sacré de Jésus. Aujourd'hui, chers fidèles, où nous fêtons le Christ-Roi, demandons à la Très Sainte Vierge la grâce des apôtres du Saint-Rosaire, la grâce d'aimer à réciter notre rosaire comme la Sainte Vierge l'a appris à Sainte Bernadette, et ensuite la grâce d'être des apôtres du rosaire, des apôtres de l'Immaculée, puisque la Sainte Vierge a daigné se nommer à Sainte Bernadette, dites-leur que je suis l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Et ainsi, chers pèlerins, demandons cette grâce d'être des apôtres, des missionnaires du rosaire de Notre-Dame, comme Saint Maximilien Kolb qui a fondé la milice de l'Immaculée, comme le Père Chaminade, il y a bien longtemps, qui, fondant sa congrégation, voulut qu'elle fût une congrégation mariale. Et quand il devenait vieux, il aimait s'approcher de la statue de l'Immaculée Conception, et de sa main, il tenait ferme les pieds de Notre-Dame en disant au démon, « Oui, elle t'écrasera la tête. Oui, cher pèlerin, Notre-Dame, par son Immaculée Conception, écrasera la tête du démon. Elle terrassera les hérésies, spécialement l'hérésie moderniste, l'hérésie actuelle. Alors prions la Très Sainte Vierge qu'elle soit triomphante contre cette hérésie actuelle, le modernisme, et qu'elle nous aide à faire régner notre Seigneur, à répandre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons donc le Christ-Roi. Et un de mes confrères, prêtre, se trouve aujourd'hui à Prague, la capitale de la Tchécoslovaquie. Et pour la première fois, solennellement, sera célébrée la messe à Prague, dans ce pays autrefois communiste, de persécution très grave contre les catholiques. Quelle grâce aujourd'hui, le Christ-Roi entre publiquement à Prague. De même aujourd'hui, un autre de nos confrères prêtres se trouve en Lituanie, autre pays catholique qui fut sauvagement persécuté par les communistes, et lui aussi célébrera la messe du Christ-Roi. C'est un signe pour nous de voir que notre Seigneur entre avec sa couronne dans ces pays de persécution qui aujourd'hui se réveillent, et aujourd'hui où la foi se réveille. Et nous sommes réunis de notre côté, au pied de Notre-Dame, de la Mère du Sacré-Cœur, de la Mère du Christ-Roi, en nous demandant quels sont les moyens que notre Seigneur nous donne pour répandre son règne, bien chers fidèles, bien chers pèlerins. Certes, nous avons la messe que Monseigneur Lefebvre nous a conservée, car c'est bien lui que le bon Dieu a choisi, a suscité pour nous garder la messe. Et à partir de la messe, tous les trésors des grâces qui se répandent sur nos âmes, par en particulier la croisade eucharistique des enfants, qui a été fondée, refondée il y a quelques années par nos confrères, pour que les âmes de nos enfants s'imprègnent de l'amour du bon Dieu, de l'esprit de sacrifice que la Sainte Vierge a si bien montré à Bernadette. Et également, depuis quelques années, nous avons voulu rétablir cette belle dévotion au Sacré-Cœur, qui est l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Et je pense que c'est un grand moyen pour
répandre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous en parlerai quelques instants. Au début du siècle, le père Matteo fut suscité par le Sacré-Cœur de Jésus pour propager cette intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Et on peut dire qu'il a préparé le pape Pie XI à écrire en 1925 sa magnifique encyclique Quas Primas, instituant la fête de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur qui veut régner par son Sacré-Cœur, et ceci d'abord dans les familles. D'abord, bien cher fidèle, il veut régner. Notre Seigneur, il est roi. Il a droit à régner. Et ceci a un double titre, par sa naissance et puis par sa conquête sur la croix. Par sa naissance, puisque dans le sein virginal de Marie, son humanité a été assumée par le Verbe de Dieu. Et cet homme que les apôtres ont connu en Galilée, cet homme qui a semé la parole divine, qui a semé les miracles, cet homme qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, n'est autre que Dieu lui-même, que la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est pourquoi cet homme, Jésus-Christ, a droit à la royauté. Il est le seul homme de l'histoire humaine qui soit le bon Dieu. Il a droit à des hommages divins. Et Mgr Lefebvre aimait dire et répéter cette parole profonde que nous n'avons qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Père et le Saint-Esprit. Cet homme, Jésus-Christ, c'est Dieu, et nous l'adorons. Et par conséquent, il a droit à la royauté. Il a son mot à dire en toutes les choses humaines, au ciel, sur la terre et même dans les enfers. Et sur la terre, dans toutes les activités humaines, il doit régner. Et puis, par droit de conquête, il est le roi, puisqu'il a versé son sang pour nous racheter sur la croix. Alors, bien chers pèlerins, nous repoussons et nous résistons et nous luttons énergiquement contre le laïcisme de nos sociétés, spécialement de la France, qui depuis deux siècles a rejeté publiquement notre Seigneur en établissant une république sans Dieu, un État sans Dieu et sans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous proclamons que notre Seigneur est notre roi, le roi des rois, le roi des gouvernants, le roi des lois, le roi des législations humaines. Et nous rejetons avec Mgr Lefebvre cette abominable liberté religieuse qui est la proclamation par des hommes d'église dans un concile œcuménique de cette erreur très grave du laïcisme. Comme quoi les gouvernements n'auraient rien à voir de spécial avec notre Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi tous les faux dieux devraient avoir la liberté d'être adorés. Quelle abomination! Le Sacré-Cœur doit régner. Et s'il veut régner dans nos sociétés et sur notre patrie, il doit d'abord régner dans nos familles. C'est une vérité importante. C'est d'abord dans nos foyers que notre Seigneur doit établir sa loi. Avant de penser à voir le faire régner dans les lois publiques, faisons-le régner, chers fidèles, chers pèlerins, dans nos familles chrétiennes. Notre Seigneur n'est pas le roi uniquement le dimanche. Il ne dit pas « à moi le dimanche, à vous les six autres jours de la semaine ». Ce n'est pas vrai. Notre Seigneur est notre roi 7 jours sur 7. Notre Seigneur non plus n'est pas le roi simplement au fond des sacristies ou dans les chapelles. Ce n'est pas vrai. Notre Seigneur est le roi d'abord à la maison, à l'atelier, dans nos activités quotidiennes. Il est le roi d'abord par la sainteté du mariage chrétien, par l'observation au foyer des saintes lois du mariage, bien cher pèlerin. C'est là qu'il est d'abord le roi, c'est là d'abord que vous devez le faire régner en observant avec fidélité les saintes lois du mariage, en acceptant généreusement tous les enfants que le bon Dieu veut vous donner, en acceptant et en consentant tous les sacrifices
pour donner ensuite à ses enfants une éducation catholique, et par conséquent en leur choisissant de vraies écoles. On ignore trop que nous avons de vraies écoles catholiques. C'est votre devoir de mettre vos enfants dans des écoles où leur foi et leurs mœurs ne seront pas corrompues. Voilà le Christ roi. Pour nous, c'est cela le règne social du Christ roi. Les familles chrétiennes, les écoles catholiques. Écoutons ces paroles terrifiantes d'un franc-maçon qui s'était converti, mais qui déclarait publiquement le plan des francs-maçons. Vous ne pouvez exagérer, écrivait ce franc-maçon converti au père Matteo, vous ne pouvez pas exagérer l'importance de la croisade que vous prêchez en prêchant le Sacré-Cœur dans les familles. Nous, francs-maçons, nous ne vivons que pour une seule chose, déchristianiser la famille. Car nous savons que si nous avons la famille, nous avons la société. Et pour déchristianiser la société, il nous suffit d'avoir les familles. Alors nous laissons volontiers aux catholiques les sacristies, les chapelles, les églises et les cathédrales. Mais nous avons la famille. Alors voilà, ces paroles d'un franc-maçon, prenons-les au sérieux. Et que nos foyers consacrés au Sacré-Cœur soient les vivantes cellules de l'Église catholique où toutes les vertus chrétiennes se forment sur le modèle du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Il doit régner dans nos familles. Ensuite, il doit régner par son Sacré-Cœur. Nous fêtons le Sacré-Cœur du Christ roi. Sa couronne, il la doit à son Sacré-Cœur. À Sainte Marguerite Marie, apparaissant il y a 3 siècles, le Sacré-Cœur faisait de magnifiques promesses pour les familles dans lesquelles son Sacré-Cœur serait honoré. Et voici ses promesses. Il disait « Je régnerai malgré mes ennemis ». Je régnerai malgré mes ennemis. Quelle plus grande confiance nous avons par conséquent de faire régner à nouveau notre Seigneur malgré tous ses ennemis intérieurs et extérieurs à l'Église. Et il promettait ceci, je mettrai la paix dans les familles, la paix. J'attirerai par conséquent à la vraie foi et à la tradition les membres de nos familles qui peut-être sont éloignés de la foi. Ou au moins je donnerai aux fidèles, à ceux qui sont restés fidèles, la grâce de pouvoir porter leur croix avec plus de courage. Autre promesse du Sacré-Cœur, je bénirai les maisons dans lesquelles l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et vénérée. Toutes les bénédictions du bon Dieu sur ces maisons où publiquement on trouve l'image du Sacré-Cœur vénéré. Méditons sur le sens profond de la présence du Sacré-Cœur dans nos familles. La famille chrétienne, elle est scellée dans le sang de notre Seigneur sur la croix. Puisque vous savez que le mariage chrétien, le sacrement de mariage, est le signe sacré de l'union entre le Christ et son Église, union scellée sur la croix. Lorsque le soldat vint percer de sa lance le côté du Seigneur, c'est de son côté ouvert que coula le sang et l'eau. Le sang figurant l'Eucharistie, l'eau signifiant le baptême. Et c'est là que notre Seigneur a épousé son Église, puisque c'est là qu'il a racheté les âmes. Eh bien, le mariage chrétien est le signe sacré de cela, nous dit saint Paul aux Éphésiens. Marie, dit-il, aimez vos épouses comme le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle, la lavant dans un bain de régénération, avec une parole sainte, afin de se la présenter à lui-même comme une Église sainte et immaculée, sans tache ni rite, ni rien de semblable, afin de la sanctifier. Marie, c'est ainsi que vous devez aimer vos épouses. Et vous, les enfants, soyez obéissants à vos parents. Voilà, n'est-ce pas la description d'un foyer chrétien dans lequel le Sacré-Cœur règne. Et cette grâce
la famille la trouve dans le Sacré-Cœur, sur la croix, le cœur percé de Jésus. On peut dire véritablement que la famille chrétienne, par le sacrement de mariage, et seulement par le sacrement, pas les chrétiens qui seraient unis seulement civilement, qui n'auraient pas le sacrement de mariage, eh bien les vraies familles chrétiennes, scellées dans, par le sacrement de mariage, plongent leurs racines dans les profondeurs même du Sacré-Cœur de Jésus. Du Sacré-Cœur de Jésus où l'Église elle-même a pris naissance. Alors, raison de plus pour introniser publiquement le Sacré-Cœur dans vos foyers, chers pèlerins. Le Sacré-Cœur qui régnera par son amour, qui attirera les âmes par son amour, comme voulait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle prêchait ce grand désir qu'elle avait, qu'un jour advienne toute une légion de petites âmes qui seraient consacrées à l'amour miséricordieux du bon Dieu, qui, dans toutes leurs peines et leurs joies, dans toutes les petites occasions de sacrifice, dans toutes leurs victoires sur elles-mêmes, ne feraient que répondre à l'amour miséricordieux du bon Dieu. C'est la même chose, c'est ça le règne du Sacré-Cœur dans les familles, par son amour. Et alors notre Seigneur, au lieu de dire, comme autrefois dans son agonie, je cherchais un consolateur et je n'en ai pas trouvé, au contraire notre Seigneur dira, j'ai cherché un consolateur pour mon cœur sacré, rassasié d'opprobre, et j'en ai trouvé 1, 10, 100, 1000. J'ai trouvé des familles qui me consolent, qui m'honorent, qui honorent mon Sacré-Cœur. Chers pèlerins, nous parlons de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. C'est en effet une petite cérémonie liturgique. Quand le prêtre peut venir, c'est très bien. Sinon, cette cérémonie peut avoir lieu même sans le prêtre. Le chef de famille prend en main une statue ou une image du Sacré-Cœur et la met à la place d'honneur dans le foyer, pour que notre Seigneur soit membre à part entière de la famille, qu'il soit le roi, qu'il soit le maître, qu'il soit l'ami, le consolateur, le conseiller. On le met à la place d'honneur, là où il a droit à la place royale, dans le salon, dans la salle de séjour. Vous me direz, oh, moi je suis un pécheur, je n'oserais pas mettre un objet saint dans ma maison. Non, ne disons pas cela. Rappelons-nous que notre Seigneur est descendu dans la maison de Zachée, le publicain, dans la maison de ce pauvre pécheur. Ne disons pas, oh, moi dans mon salon j'ai de belles choses, des choses un peu profanes, des tableaux pas très très saints, je n'oserais pas mettre au milieu le Sacré-Cœur. Non, ça serait du jansénisme. Au contraire, le Sacré-Cœur sera là dans votre salon, pour tout sanctifier dans votre salle de séjour, en particulier pour chasser, pour mettre de côté au grenier ou à la poubelle, vous savez quoi, la télévision, la boîte à images sale. Remplacez, chers pèlerins, la télévision par une belle image du Sacré-Cœur. Un petit oratoire familial où, sur un petit autel, vous disposerez le Sacré-Cœur, la Très Sainte Vierge, Saint-Joseph. Et là, vous aurez la plus belle télévision en couleur du monde, branchée directement sur le paradis. Et ainsi, vous combattrez efficacement contre la corruption et vous défendrez vos âmes et les âmes de vos enfants contre le lavage de cerveau et la corruption des cœurs. Que ça soit aussi la grâce de ce pèlerinage à Lourdes, de mettre une bonne fois la télévision à la poubelle, tout simplement. Le règne du Sacré-Cœur, c'est quelque chose de concret, chers fidèles. L'amour de la Sainte Vierge, ce n'est pas de la théorie. Voilà ce que signifie la dévotion à la Très Sainte Vierge et la soumission au Christ-Roi. Tout sanctifier dans nos foyers, dans toutes les saletés, les mettre à la poubelle, leur place. Intronisez le Sacré-Cœur, introduisez notre Seigneur comme un membre à part entière de la famille. D'abord, il sera l'ami qui sera consulté. L'ami comme il a été à Béthanie dans la maison de Lazare et de Marthe, quand il vit que ses deux amis, eh bien, leur sœur Marie-Madeleine n'était pas à la maison. Alors, il n'eut de cesse de ramener la brebis égarée, de convertir la malheureuse Madeleine et de la faire revenir. Et quelle joie alors le jour
où Sainte Marie-Madeleine est revenue à la maison de Béthanie, pécheresse convertie. Il est l'ami. Il viendra également comme le consolateur, qui vient éponger les larmes, qui vient redonner du courage au moment où on a des épreuves. Songez par exemple à cette belle histoire que le père Matteo aimait raconter. Un jour, une mère de famille qui était veuve apprend la triste nouvelle, c'était pendant la guerre, le fils aîné était tombé au champ d'honneur, il était mort. Alors, elle ne perd pas de temps. Elle allume les cierges auprès du Sacré-Cœur, elle met des fleurs, elle réunit toute la famille, et alors on chante le credo, la foi. Et ensuite, on chante une belle prière à la Très-Sainte Vierge et au Sacré-Cœur, et c'est seulement après, alors que les larmes peuvent couler pacifiques devant le Sacré-Cœur de Jésus. Toutes vos larmes, bien chers fidèles, si elles sont versées devant le Sacré-Cœur, elles sont sanctifiantes, elles ne seront pas désespérantes. Il est le consolateur des âmes affligées. Notre Seigneur est aussi le médecin des âmes malades. Nous sommes tous des malades. Nous avons tous les traces du péché originel. Alors il vient guérir cela à la maison, pas seulement à l'église, pas seulement à la messe du dimanche, à la maison. Il viendra ramener à la tradition, ramener à la vraie foi tel ou tel membre de nos familles qui s'était écarté de la vraie religion. Le père Matteo aimait raconter cette histoire vraie, émouvante, d'une grande famille chrétienne dont le père était même amiral, n'est pas n'importe qui, mais cet amiral avait perdu la foi. Mais un jour, il accepta la cérémonie d'intronisation du Sacré-Cœur dans sa famille pour faire plaisir à sa famille, à son épouse, en particulier à ses enfants. Et le père Matteo vint lui-même introniser publiquement le Sacré-Cœur dans ce foyer. Et l'amiral restait un croyant. Mais le père Matteo revint à la charge et quelques semaines, il revient. Après, il revient à la maison et il dit « Amiral, regardez enfin cette image du Sacré-Cœur. N'auriez pas vous pitié de votre âme et du Sacré-Cœur de Jésus ?» Et le prenant par l'épaule, le secouant vigoureusement, il sut lui inspirer des sentiments de contrition, de regret de son incroyance. Et par une grâce, un signe du Sacré-Cœur, cet amiral, un soldat vaillant mais incroyant, tomba à genoux et se confessa et se convertit par une grâce du Sacré-Cœur. Par une grâce de l'intronisation du Sacré-Cœur. C'est un véritable apostolat que l'intronisation du Sacré-Cœur. C'est un feu qui se propage de famille en famille pour embraser le monde par des zélateurs et des zélatrices. Voilà un bel apostolat que peuvent remplir nos fidèles laïcs, préparant le chemin aux prêtres par l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Alors demandons cette grâce. Puisque nous sommes près de la Sainte Vierge, parler du Sacré-Cœur ou parler du Cœur Immaculé de Marie, c'est tout pareil. Honorer le Fils, c'est honorer la Mère. Honorer la Mère, c'est honorer le Fils. Alors demandons cette grâce à la Vierge Marie, que de nos foyers, où notre Seigneur règnera, où notre Seigneur sera intronisé, se répand dans le monde entier, de famille en famille, ce feu de l'amour divin que notre Seigneur est venu répandre sur la terre. Et qui désirait avec force le voir embrasé. Oui, chers pèlerins, par le cœur immaculé de Marie, que règne le Sacré-Cœur de Jésus dans nos familles, dans nos foyers. Que aimé, béni et glorifié soit à tout jamais, à tout instant, partout et toujours, le cœur triomphant de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Excellences, bien chers confrères, chers pèlerins, permettez que je vous adresse encore la parole comme je l'ai fait hier soir, après ces vêpres solennelles du Christ roi et avant la grande procession du Saint-Sacrement que nous allons faire. Quelle joie sacerdotale de pouvoir rassembler en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie une telle foule venue non seulement de toute la France, mais des quatre coins du monde, puisque, je le répète, Il y a même un groupe d'Australie. Il y a des pèlerins du Gabon. Il y a des pèlerins d'Amérique. Et bien entendu, de toutes les nations avoisinantes. Pour un prêtre, c'est en effet une grande joie de pouvoir faire prier les fidèles. Et si Jésus a dit, lorsque vous serez quelques-uns à prier, je serai au milieu de vous, quand il y a des milliers de fidèles qui sont en prière, notre Seigneur Jésus-Christ est bien là, au milieu de nous. Et en plus, il y est physiquement, puisque le Saint-Sacrement que nous allons tout à l'heure promener sur cette prairie face à la grotte est là. Et donc Jésus est là physiquement, moralement, divinement. Et quel bonheur de rassembler ainsi des fidèles pour les faire prier et supplier notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère pour les intentions si graves de la Sainte Église et pour nos intentions personnelles. Nous serions tentés de nous écrier comme les apôtres dans la barque secouée par les flots et qui pensaient-ils aller sombrer. Nous serions tentés de nous écrier, « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Car la Sainte Église, apparemment, est près du tombeau. La foi, c'est-à-dire la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est plus prêchée, et sa morale non plus. Au contraire, on va jusqu'à prêcher le contraire, c'est-à-dire l'erreur, l'hérésie, l'immoralité, et jusqu'à détruire les institutions de notre mère tant aimée, la Sainte Église. Seigneur, sauvez-nous. Nous périssons. Cependant, Jésus ne dort pas au fond de la barque de l'Église, de même que s'il dormait au fond de la barque des apôtres, son cœur veillait. Jésus est là, bien vivant, qui nous écoute et qui un beau jour se lèvera et calmera les flots de la tempête. Aussi, notre cœur doit être rempli de confiance et d'une espérance absolument certaine. Aussi, il faut nous rappeler les préceptes mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est bien là l'essentiel. Il fallait, dit-il aux apôtres, quelques heures après sa résurrection, il fallait que s'accomplissent les Écritures, c'est-à-dire que le Christ souffrit, mourut, et finalement ressuscite glorieusement, afin qu'à travers le monde, à commencer par Jérusalem, soit prêchée la pénitence et que les nations se convertissent. Et ces paroles, mes bien chers frères, puisque nous sommes en pèlerinage, il faut commencer de les appliquer à nous-mêmes. Nous qui sommes pécheurs, il faut que nous fassions pénitence pour nos propres péchés. Il faut que, en cette terre bénie de Lourdes et devant la grotte, nous soyons persuadés que, depuis notre naissance, et plus spécialement depuis notre baptême, où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons cessé, hélas, de contredire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'offenser. Et même si, grâce à Dieu, ce ne sont que, comme on dit, des petits péchés, des péchés véniels, n'empêche que ces péchés, nous les multiplions, et même chaque jour, et nous tournons ainsi, avec désinvolture, avec indifférence. Nous tournons le dos à notre Seigneur Jésus-Christ, ou du moins, nous traînons les pieds pour le suivre, alors que nous devrions le suivre avec allégresse, avec enthousiasme, et chercher à faire toujours plus et toujours mieux sa volonté. Alors, soyons donc persuadés de notre pauvreté, de notre misère et de la nécessité où nous sommes de faire pénitence, et non seulement par quelques paroles prononcées à l'intérieur de notre cœur, « Mon Dieu, pardon, mon Dieu, ayez pitié de moi », mais que nous prenions ici même des résolutions bien précises pour devenir meilleurs sur le plan de la piété, sur le plan de la pratique religieuse, sur le plan de la vertu à pratiquer, vertu de charité, vertu de chasteté, vertu de zèle, de dévouement à l'égard des autres, hein, et ainsi de suite, hein, afin que, basé et fondé sur ces résolutions, à partir de ce soir, hein, à partir de demain, où nous retrouverons notre chez nous, alors notre marche, hein, à l'égard de Jésus soit de plus en plus fidèle. Oui, mes frères, il faut que nous fassions pénitence, il faut que nous pratiquions la vertu, il faut que nous aimions notre Seigneur Jésus-Christ une bonne foi, et que la Vierge Marie, que nous aimons tant et que nous avons tant de joie à venir prier en cette terre de Lourdes, que la Vierge Marie nous aide maternellement dans nos efforts. Mais nous pensons aussi, mes bien chers frères, à l'Église tout entière, aux fidèles du monde entier auxquels n'est plus prêché le message évangélique. Alors, avec des sentiments d'amour, avec des sentiments de respect, ayant Jésus seul devant les yeux et sa mère comme témoin, nous nous adressons aux 120 évêques environ, aux évêques de France présents en ce moment à Lourdes pour leur assemblée annuelle. Réveillez-vous, rappelez-vous que vous êtes évêques pour prêcher Jésus-Christ, pour convertir, pour inciter les âmes à la pénitence et les conduire au ciel. Vous avez été sacré évêque pour cela. Hélas, en favorisant le marxisme, comme vous l'avez fait depuis 1945, et le communisme intrinsèquement pervers, en favorisant la religion musulmane et en aidant à construire des mosquées contre l'unique vraie religion, celle que Jésus a fondée et que l'islam a juré de combattre. Évêque de France, que nous voudrions pouvoir suivre sur la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, montrez-nous cette voie. Arrêtez une bonne fois vos discours et vos déclarations obscures. Ce verbiage, excusez-moi, qui vous évite de prendre position et par lequel vous ménagez, excusez ou même soutenez finalement les ennemis de l'Église et de la morale. Cessez de vous complaire dans votre amour des défis et des risques qui ne sont finalement que des capitulations. Les pauvres âmes n'ont rien à faire de votre attention au monde, ni de votre regard positif sur les événements. Elles sont avides de surnaturel et de la lumière qui vient du Christ. Est, est, non, non. Il ne s'agit pas de composer avec le monde, ni d'être bien vu, mais de plaire à Dieu. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi dissipe. Depuis 40 ans, vous composez avec le monde. Et le monde qui veut vous asservir y est arrivé. Ici à Lourdes, chers évêques, vous cherchez comment faire face au monde actuel, mais il n'y a qu'une recette, elle est toute trouvée, c'est Jésus-Christ. Laissez de côté vos dialogues, vos recherches, vos discours qui n'en finissent plus, et regardez le pauvre peuple qui a besoin de pain et de lumière. Prêchez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez bien l'Évangile. Prêchez-le, rien que cela. Adoration, fuite du péché, crainte de Dieu, du jugement et de l'enfer, règne du Christ roi. Et alors, vous verrez les églises se remplir et nous serons sauvés. En prêchant l'homme, vous allez le perdre, mais en prêchant le ciel, vous grossirez merveilleusement le troupeau du Christ. Voilà le salut, et quel renouveau pour l'Église et pour le monde. Mais bien, chers frères, quoi qu'il en soit, ce renouveau, pourrions-nous dire, est en marche. Et hier, j'évoquais l'Église catholique d'Ukraine, et j'y reviens car un certain nombre d'entre vous n'étaient pas là, et d'autres, paraît-il, ont mal entendu parce que je n'avais pas parlé assez près du micro. Qu'il m'en excuse. Eh bien, vous savez que cette Église d'Ukraine, qui a été persécutée depuis 1945, est en train de retrouver toute l'expression, et nous pouvons dire l'expression publique, de sa foi. Ils ont été persécutés, 16 évêques, 3200 prêtres, des milliers de religieux, des dizaines de milliers de fidèles ont été persécutés, massacrés, envoyés au goulag. Leurs églises leur ont été arrachées, soit profanées, soit détruites, soit livrées aux orthodoxes qui sont schismatiques, et d'ailleurs à la solde, était-il, de Moscou. Et voici que, en 1988, le 6 juin, 5 évêques et 4 prêtres se sont présentés au Kremlin pour demander audience, car il était là par hasard, à Monseigneur, au cardinal Casaroli. Or, fait étonnant, ces 4 évêques et ces 5 prêtres qui se sont présentés au Kremlin n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été envoyés au goulag, ils ont conservé leur liberté, et à partir de ce moment, ils ont commencé à retrouver leurs églises, ils ont commencé à retrouver leurs sanctuaires, ils en ont récupéré de force, et eux-mêmes, et les évêques, que ces évêques avaient sacrés en cachette, sans pouvoir en référer au siège apostolique, alors ont repris publiquement leur ministère. Et le 26 juin 1990, ils ont pu tenir à Rome un concile, le concile, c'est-à-dire une assemblée liturgique d'évêques, de tous les évêques d'Ukraine. Et le 31 mars 1991, le cardinal Lubatchinsky d'Ukraine a pu revenir dans sa terre natale et, descendant de l'avion, il a éclaté en sanglots de retrouver ainsi sa patrie, de retrouver son Église catholique qui repartait pour un nouvel essor, et il a célébré une messe devant 400 000 fidèles. Et l'Église d'Ukraine continue maintenant de se développer d'une manière admirable. Aurait-on jamais pensé à cela il y a 3 ou 4 ans? Voyez, mes bien chers frères, Dieu permet de ces miracles, et cela nous donne espoir pour nous-mêmes, et un jour va venir où le masque de notre Église tombera et l'Église retrouvera toute sa grandeur, toute sa beauté qu'elle conserve à l'intérieur d'elle-même, mais qu'elle a perdue à cause de la perversion qui maintenant l'enlaidit. Alors, mes bien chers frères, soyons remplis de confiance, soyons remplis d'amour, soyons remplis de générosité. Gardez votre foi et développez-la de plus en plus avec l'aide de la Vierge Marie. Cette foi, mes bien chers frères, il faut que vous la rayonniez. Vous êtes là extrêmement nombreux, puisque nous avons distribué depuis ce matin des milliers de communions, et certains n'ont pas communié, ils le communieront ce soir à la messe de 20h45 sur cette prairie. Eh bien, vous êtes très nombreux, mais vous n'êtes pas suffisamment nombreux. Oh, je sais bien, il y a les milliers, les dizaines de milliers de fidèles qui voudraient être là à votre place et qui n'ont pas pu se déranger et qui aussi sont en ce moment avec tout leur cœur, avec toute leur ferveur. Ils s'y prient en ce moment avec nous. Mais il y a ceux qui, malheureusement, ne connaissent pas encore la tradition. La tradition, c'est-à-dire la Sainte Église catholique romaine qui continue à travers les siècles. Eh bien, ceux-là, mes frères, il faut que vous arriviez à les conquérir. Il faut vous décider, chacun d'entre vous, à aller trouver, soit dans votre famille, soit dans vos amitiés, soit dans votre voisinage, aller trouver un frère, un ami, un voisin, et lui dire, voilà ce que nous avons fait, nous sommes allés à Lourdes, et c'était admirable. Nous en conservons un souvenir magnifique. Si vous avez des photographies, vous le leur montrerez. Et vous leur direz, eh bien, vous aussi, maintenant, il faut retrouver cette foi de l'Église catholique et la messe traditionnelle. Alors, vous savez, ce n'est pas difficile. Il y a un centre à tel endroit, il y a un prieuré à tel endroit. Évidemment, il faudra vous déplacer, mais vous le ferez avec tout votre cœur. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que c'est trop loin, ou bien parce que votre santé ne le permet pas, faites comme ces persécutés d'Ukraine, par exemple, ou de Chine, ou d'ailleurs, et qui prient dans le fond de leur maison, et ce jour-là, dimanche, ne pouvant pas aller à la messe traditionnelle, priez avec votre missel et célébrez ainsi le jour du Seigneur. Et alors, si vous faites cet apostolat, alors notre nombre grandira encore merveilleusement, et notre Seigneur attend cette générosité, cette fidélité, afin le jour où il suffira de lui dire, où il lui suffira de dire Sufficit, c'est-à-dire cela est fini, l'hérésie du modernisme, et par sa puissance, notre Seigneur fera éclater la foi, il fera éclater la merveilleuse lumière de notre sainte religion catholique. Aussi que ces jours passés à Lourdes, et qui ne sont pas terminés, puisque le pèlerinage ne se termine que demain matin, après le chemin de croix de 9h, et les adieux à la grotte à 11h30, il faut que de ces jours, vous conserviez un souvenir, non seulement ineffaçable d'émotion, non, un souvenir ineffaçable de foi, d'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, et de résolution de l'aimer toujours plus, toujours davantage. Amen.
Notre foi, mes bien chers frères, s'est trouvée réconfortée par ce beau et grand et nombreux pèlerinage. C'est un soutien. La foi, c'est la vision de Dieu dans l'obscurité. Nous croyons sans voir. Mais Dieu nous donne des signes, comme il y a eu les signes des miracles de Jésus pendant sa vie. Il y a les signes de tout son amour, et en particulier de la manifestation des vérités éternelles, la manifestation de notre foi par un rassemblement tel que celui-ci. Vous repartez tous, j'en suis sûr, extrêmement réconfortés, même s'il y a eu l'inconvénient ou la pénitence de la pluie qui revient pour le dernier moment, c'est que le bon Dieu veut nous bénir encore davantage. Nous sommes le petit troupeau, mes bien chers frères, mais un petit troupeau qui ici a l'air tout de même avoir assez d'importance, à voir par votre nombre. On peut dire qu'ici c'est un grand troupeau, mais par rapport évidemment à tous les autres, c'est le petit troupeau. Mais un petit troupeau répandu dans le monde entier et qui doit encore s'agrandir. À vous de faire beaucoup d'apostolats pour que tous les fidèles retrouvent la pureté et la beauté de leur foi et la maintiennent coûte que coûte. Eh bien, chers frères, il faut rayonner votre foi. Il faut la rayonner, c'est-à-dire manifester votre foi aux autres et les entraîner à croire et évidemment à pratiquer en rapport avec cette foi. Soyez donc très bons. Saint Paul nous dit qu'il faut être bon avec ses frères dans la foi. Alors soyez bons entre vous. Il y a humainement des petites mesquineries quelquefois, des petites divisions pour des choses qui n'ont pas tellement d'importance. Ou même si vous pensez que ces choses ont de l'importance, tant qu'il s'agit de méthodes d'apostolat, tant qu'il s'agit d'opinions permises par la Sainte Église, du moment qu'on tient à la foi intégralement, au credo et à toutes les vérités de foi prêchées depuis 20 siècles, alors ça ne fait rien si on n'est pas d'accord sur certains points, qui sont encore en suspens. Donc, restez très bons les uns avec les autres, mais bien sûr, fermes sur la foi. Et faites attention à cette tentation du libéralisme qui nous prend tous. On a toujours tendance, sous prétexte de bonté ou de compréhension, à se laisser aller sur les principes essentiels. Face à la perversité du monde, face à la perversion qui nous entoure, ou face à l'hérésie, alors restons très fermes sur la foi et ne nous laissons pas prendre par toutes ces erreurs modernes ou du modernisme qui malheureusement ont envahi l'Église. Pensez aux vocations sacerdotales. Vous êtes là extrêmement nombreux. Il y a des enfants, il y a des jeunes gens, des jeunes filles. Alors pour les jeunes gens, évidemment, c'est la vocation à l'état sacerdotal ou à l'état religieux. Pour les jeunes filles, c'est la vocation à la vie religieuse. Vous avez le devoir, chacun, même si vous êtes encore assez petit, que les enfants m'écoutent bien, vous avez le devoir de vous interroger. Est-ce que Jésus n'a pas pensé à moi pour être prêtre? Et si vous avez déjà 18 ou 20 ans, ou même davantage, posez-vous la question, est-ce que Jésus n'a pas pensé à moi? Interrogez-vous. Et si vous pensez qu'en effet, ce serait très beau de vous donner pour le bon Dieu, vous savez qu'on a besoin de prêtres, et la fraternité Saint-Philippe, qui en a déjà beaucoup, a besoin de beaucoup, beaucoup de prêtres pour toutes ses œuvres répandues dans le monde entier. Alors interrogez-vous sur votre vocation, demandez conseil, et de telle façon que ces vocations qui existent s'éveillent. Beaucoup de vocations ne s'épanouissent pas parce qu'il y a un manque de générosité. Interrogez-vous donc sur votre vocation. Est-ce que le bon Dieu ne veut pas de moi? Et les jeunes filles aussi, pour la vie religieuse. C'est très très important, c'est tellement beau de donner sa vie pour le sacerdoce et de donner sa vie à notre Seigneur pour être totalement à lui. Les petits-enfants qui sont dans l'assistance, eh bien, qu'ils soient très obéissants. Ils m'écoutent bien, les petits-enfants. Qu'ils obéissent toujours à leurs parents. Évidemment, c'est tentant de faire ce que l'on veut, ces petits caprices. Il faut bien dire que papa et maman remplacent le bon Dieu. Alors si on vous demande des choses qui ne vous plaisent pas, ça ne fait rien, vous dites oui maman, oui papa, et vous obéissez. Alors les petits-enfants, à partir d'aujourd'hui, seront beaucoup plus obéissants. Et puis, mais les adolescents, pour les adolescents c'est plus difficile d'obéir parce que c'est l'âge où on veut un peu d'émancipation, un peu d'indépendance. Mais l'obéissance à ce moment-là est beaucoup plus méritoire. Alors que les adolescents et adolescentes restent également très obéissants. Jeunes gens et jeunes filles, pensez à votre pureté. Jeunes gens, blindez-vous contre les tentations qui sont inévitables, qui viennent du monde, qui viennent de vous-même. Alors la tentation, évidemment, comme son nom l'indique, est attrayante. Il faut dire, ben non, ça c'est pas bien, c'est mal. Le monde pense comme ça, on fait comme ça, mais nous, nous sommes catholiques et nous n'avons pas le droit de le faire. C'est dur, eh bien, nous ne le faisons pas. Et nous attendons, s'il le faut, par exemple, pour des questions de pureté, de mariage, nous attendons l'heure de Dieu où il y aura le sacrement de mariage qui pourra nous unir, et à ce moment-là, bien sûr, est permis ce que le bon Dieu a voulu. Mais en attendant, gardez votre pureté. Jeune fille, soyez très modeste, soyez vêtue convenablement, évitez d'être pour les jeunes gens un attrait exagéré et gardez-vous vous-même des tentations d'impureté qui courent le monde. Et puis aussi que les jeunes, et peut-être les moins jeunes, brisent toute attache qui ne serait pas conforme à la volonté de Dieu. On voit des jeunes gens, des jeunes filles qui sont très traditionnalistes et un beau jour, ils rencontrent quelqu'un et un amour humain naît de cette rencontre et alors on se laisse aller. Quitte, hélas, quelquefois, à quitter son conjoint pour partir ailleurs, quitte à se laisser prendre par l'attrait d'un jeune homme, d'une jeune fille, qui ne sont pas traditionnalistes ou même qui ne sont pas catholiques du tout. Et alors on court vers une union que Dieu ne peut pas bénir, ou même quelquefois qui est une situation irrégulière. S'il y a donc une attache qui naît nécessairement, fatalement, à cause du cœur, alors brisez-la tout de suite. Soyez très courageux afin que l'amour véritable que vous pouvez avoir le droit d'avoir si vous vous engagez dans la voie du mariage soit vraiment selon l'amour de Dieu et qu'à deux alors vous puissiez fonder un foyer bien chrétien, bien catholique, très traditionnel. Vous tous qui êtes mariés dans l'assistance, alors menez votre vie conjugale comme Dieu le veut,
sur le plan chasteté, sur le plan charité l'un avec l'autre, et rayonner de votre foyer, rayonner autour de vous. Enfin, les personnes seules, elles sont bien éprouvées, soit qu'elles soient assez âgées, soit qu'elles soient handicapées, soit tout simplement qu'elles n'aient aucun entourage qui puisse les soutenir, ou même qu'elles soient privées de la consolation d'un centre traditionnel auquel elles puissent aller. Mais sachez, vous tous qui êtes seuls, qui êtes délaissés dans la vie, mes bien chers frères, sachez que Jésus vous regarde, que la Vierge Marie vous bénit, et dans votre solitude, dans votre prière du rosaire, votre désir de plaire à Dieu, même si vous vous pensez, si vous vous sentez comme un petit peu rejeté ou bien oublié de tout le monde, sachez que Dieu est là et qu'il vous bénit, et c'est la plus grande des consolations. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur Tissier de Malray.
Chers pèlerins du Christ roi, soyons dans l'action de grâce. Remercions de tout cœur le bon Dieu de nous avoir attirés ici à l'appel de cher Monsieur l'abbé Gouache, au pied de la Très Sainte Vierge, qui est venu ici toucher le sol de notre terre pour distribuer ses grâces, elle qui est pleine de grâce. Alors, nous avons certainement reçu beaucoup de grâces, et d'abord, aujourd'hui, hier, avant-hier, la grâce de connaître et d'aimer davantage Notre-Dame, de la connaître un peu mieux, d'aimer son Immaculée Conception, de nous réjouir de l'honneur de notre Mère. Elle est Immaculée, elle a révélé son nom à Sainte Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Immaculée dans son corps et dans son âme, par un privilège de Dieu. Et elle veut que nous aussi, à son image, nous soyons immaculés dans notre âme et dans notre foi. Par une grâce du bon Dieu, nous avons gardé la foi intégrale. Nous professons intégralement la foi catholique. Mais il faut que cette foi s'enracine davantage dans notre âme. Que nous ne doutons pas de la puissance de Dieu. Seigneur, augmentez notre foi, nous avons demandé. Également, soyons jaloux de l'intégrité de notre cœur. Pas d'attache avec la terre. Soyons tout entiers à Dieu. D'intégrité aussi de notre corps, la vertu de chasteté que nous rappelait M. l'abbé Gouache. Voilà ce que la Très Sainte Vierge désire pour nous, et voilà certainement les grâces que nous avons reçues aujourd'hui. Grâce de connaître et d'aimer davantage Notre-Dame, et de l'imiter, la Vierge Immaculée. Ensuite, peut-être une seconde grâce, qui est d'aimer davantage notre rosaire. Sainte Bernadette a appris à mieux prier, mieux méditer son chapelet, à côté de la Très Sainte Vierge. Alors demandons de méditer davantage et mieux toujours notre rosaire, les saints mystères du rosaire, en demandant avec ferveur les fruits de chaque mystère du rosaire. Ça, c'est la deuxième grâce, sans doute, que nous avons reçue, d'aimer davantage notre chapelet. Et puis je dirais une troisième grâce, de vivre davantage dans la dépendance de Notre-Dame, comme voulait Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Que tout ce que nous faisons soit fait pour le bon Dieu, bien sûr, mais passe par les mains de Marie. Elle est notre médiatrice auprès du médiateur. Par conséquent, si toutes les grâces du bon Dieu qui nous viennent passent par les mains de Marie, de même, toutes les petites actions que nous faisons, tous les petits sacrifices, toutes les victoires sur nous-mêmes, toutes les croix que nous portons, eh bien, leur valeur, que la grâce leur donne, remonte vers le bon Dieu par les mains de Marie. Vivons dans une grande dépendance de Notre-Dame, comme notre Seigneur, qui a voulu dépendre de la Très Sainte Vierge, sa mère, dans sa conception, dans son enfantement, dans sa vie cachée, sa présentation au temple, même dans le début de son apostolat. Eh bien, soyons dépendants de Notre-Dame et dans notre apostolat. Monsieur l'abbé nous rappelait que nous devons être des apôtres, des missionnaires, des apôtres de Notre-Dame, Alors, nous pourrons faire du bien aux autres, attirer les membres de nos familles ou nos amis à la foi intégrale, à la tradition de l'Église, si nous demandons cela à Notre-Dame. La Très Sainte Vierge nous aidera à être des apôtres de son cœur immaculé, si nous sommes vraiment dans sa dépendance. Demandons ses grâces et remercions la Très Sainte Vierge de toutes les grâces accordées aujourd'hui. Pensons également à nos chers malades, qui certainement, s'ils n'ont pas obtenu des grâces peut-être visibles extérieurement, ont certainement obtenu de profondes grâces d'accepter avec résignation, avec paix, les croix que le bon Dieu leur envoie. Bien chers pèlerins du Christ roi, n'oublions pas le regard de Marie, le sourire de la Très Sainte Vierge. Nous n'avons pas eu le privilège de la contempler comme Sainte Bernadette, mais n'oublions pas le regard de la Très Sainte Vierge. Vivons sous le regard de Marie.